faisait de la musique dans notre studio en 99 et il y a une explosion avec le bug et depuis on est devenus des robots.
Vous aviez besoin de ça ?
Les accidents, on les prédit jamais.
C'est quoi la French Touch ?
C'était un petit peu comme des pionniers qui découvrent l'Eldorado.
L'histoire secrète de la French Touch.
Ils inventaient quelque chose. Voilà, il y avait une idée de mouvement.
30 témoins, 30 ans d'archives et d'anecdotes inédites.
C'est pas mal votre truc, vous êtes en même temps hyper pointu, hyper expérimentaux, mais hyper populaire, les gens adhèrent.
Daft Punk, Cassius, Justice, Nile Rodgers. Les coulisses de la French Touch par ceux qui l'ont fait.
C'est quoi la French Touch ? Ça ne voulait pas dire grand-chose.
C'est ah, ça coule bleu, Dimitri, oui, baguette.
Un podcast de Mathieu Culeron et Stéphane Jourdan.
La French Touch, c'est ça finalement l'histoire à raconter. À la recherche du succès, puis à la fin c'est Daft Punk qui gagne.
Épisode 7, la folie Stardust.
En juillet 98, le titre est sorti, et je me rappelle, je suis parti en Italie.
Benjamin Diamond, du groupe Stardust, avec Alan Brax et Thomas Bangalter.
C'est très curieux parce que j'avais pas cette vision, en fait, du succès. C'est irréel parce que tu l'entends, c'était partout. Le mec sur la plage, avec un petit truc, il le jouait. T'allais au supermarché, tu l'entendais. T'allais dans les cafés, tu l'entendais. Dans les clubs, tu l'entendais. Tu l'entends partout. À la fin, c'est genre, c'est même bizarre, quoi. Quand la musique comme ça marche beaucoup, c'est vraiment très, très impressionnant, quoi.
On s'est rencontrés, à l'époque, il y avait cette petite scène qui était un peu foisonnante à Paris. Ouais, un petit groupe de personnes et de passionnés. Et on s'est rencontrés dans un petit club un soir. C'est Sven Love qui nous a présenté.
Alan Brax.
Et on a commencé à parler... instrument de musique en fait, vraiment de musique 100% musique, et puis ça a accroché assez vite. Mais donc de la manière la plus spontanée, comme tu rencontres quelqu'un dans une soirée un soir, soit dans un appartement, soit dans un petit club via un ami commun.
Et Alain me dit ouais, j'ai un pote là, tu le connais, on l'avait déjà rencontré, Thomas. J'étais, ah oui. Il me propose de sortir un maxi sur son label. Donc je dis ouais, c'est charmé et tout. J'étais super jaloux parce que non mais tu vois, à l'époque c'était un peu la course de qui va signer quoi, tu vois. Il me dit je vais faire une soirée avec des mecs de Paris au Rex. Est-ce que tu veux venir? Ça serait bien que tu viennes, je sais pas, faire un truc, performer avec moi. Parce que lui, je crois qu'il stressait un peu de faire ça tout seul. Et donc on se retrouve à Paris. Guimane, ils nous laissent leur studio à Neuilly, là. Anna s'installe là-bas, puis je passe peut-être 2 jours avec lui là-bas, et on ramène des disques et tout ça. Et en fait, c'est là qu'est plus ou moins né Music Sounds Better With You. C'est-à-dire qu'il cherchait à faire, en fait, tu vois, des trucs en plus de ces morceaux, tu vois, et donc on s'est mis à sampler des trucs, et donc je crois que c'est Alain qui a samplé le Chaka Khan, je sais plus comment ça s'est passé. De top lane vocal, mais qui était pas du tout ce qu'est Music Sounds Better aujourd'hui, mais qui ressemblait un peu. Bon, et on s'est dit, on va faire ça en plus, tu vois, voilà. Et il se trouve que Thomas est passé, il nous a dit, si vous faites ça au Rex, moi je veux bien venir et je joue des claviers. Et on lui dit, mais ah bon, tu vas jouer des claviers, c'est-à-dire... Et il dit, oui, bah, on fera un truc un peu improvisé. Et donc, effectivement, il est venu avec son corps trident, en fait. Il a joué sur les trucs d'Alain, sur ses morceaux. Et on a fait cette espèce de medley avec les prémices de Music Sounds Better With You dedans. Et voilà.
Cette soirée, donc, qui s'appelle la soirée Hometown, j'ai retrouvé le flyer. On fait pas un carton, je crois qu'on fait 50 entrées payantes.
Antoine Kenobi, organisateur de la soirée au Rex.
Ça se fait en petit comité, au Rex, un jeudi soir, le jeudi 11. Il faut une espèce de répétition, il y a un bœuf qui fonctionne.
Et en fait, je crois que Thomas, il a aimé ce qu'on a fait, en fait. Il a kiffé le sample, surtout. Et il nous a proposé, après, de venir le faire chez lui, dans son studio, et d'en faire un maxi, en fait. Voilà.
Thomas était producteur, Thomas avait beaucoup plus, avait lui déjà de l'expérience. On s'est retrouvés dans une pièce, on a fait un morceau en une semaine. On n'a absolument pas imaginé à aucun moment que ça allait bien se passer, ça se passe bien.
On galère pas mal sur le titre, parce que c'est toujours comme ça en fait. Moi je trouve des top lines un peu à rallonge, et on ne trouve pas de solution en fait vocale. C'est-à-dire qu'il y a un texte, mais il est trop long, en fait c'est Thomas et Alain qui ont tranché. Et donc moi je travaillais à l'époque, j'étais assistant réel et donc j'étais pas là la journée au studio. Après le taf, j'allais chez Thomas et j'écoutais l'évolution du morceau. Et un jour j'arrive, c'était fini en fait. Et donc ils ont fini par trouver une solution de garder uniquement ce qu'il y a comme vocal aujourd'hui. Mais il y en avait beaucoup plus en fait. Il y avait pas mal de textes quand même. Je crois que c'était « This dance will last forever »,« The music sounds better with you ». Bon, c'était une espèce de déclaration comme ça. Et non, c'est eux qui ont tranché et qui ont isolé la top line et qui l'ont imprimé comme ça. Voilà. Et moi, j'étais un peu... Ça m'a un peu étonné. J'étais pas tellement pour. Mais en gros, ils m'ont dit « Bon, bah, c'est ça ou c'est rien ». Donc j'ai fait « Bon, ok, d'accord ». J'étais un peu flippé parce que je me disais « C'est pas ouf, mais... S'il me le dit, c'est que j'ai fait confiance, voilà. Et c'est comme ça que ça s'est fait.
Alors ça, c'est assez extraordinaire parce que j'ai vécu le moment...
Bob Sinclair.
J'étais même dans l'avion avec Thomas Bangalter en 98, quand on va ensemble à Miami, et lui nous dit, on a un nouveau disque, tu vas voir, on a 50 exemplaires en vinyle, je vais vous faire écouter ça dans ma chambre d'hôtel. Donc il avait un petit pick-up en plastique Fisher-Price sur lequel il faisait écouter la promo, et on était dans sa chambre et on écoute ça médusé en disant mais c'est un truc de dingue avec une puissance, et puis le mec chantait en anglais avec l'accent français mais ça gênait pas, et Thomas à ce moment-là il a le son, c'est lui qui a le son, il a la clé, tout ce qu'il touche c'est de l'or. Et on est là avec Alain, DJ Grégory, DJ Deep et tout à la soirée. Et là, je peux te dire qu'il y a une réaction sur le dance floor. Tous les DJ du monde entier sont là. Hein. Tous les plus grands DJ viennent là. Les mecs jouent, je ne sais pas combien de fois, 2-3 fois le disque dans leur DJ set.
Miami. It's early evening for the Miami Winter Music Conference.
Winter Music Conference. The meeting of new people, new collaborations.
La Winter Music Conference, ça se passe fin mars. Donc avril, mai, juin, les gens se battent, les mecs font des cassettes, le disque passe à la radio sans même que le disque soit sorti, soit même licencié, quoi. Tu vois, et ils font des edits radio. C'est vraiment une guerre autour de ce disque-là.
Mais cette année-là, j'étais pas là, et ni Alain, je crois que c'est Thomas qui est allé seul.
Benjamin Diamond.
Et ouais, il semblerait que tout le monde l'a joué, quoi. Tout le monde voulait ce Scud. Mais c'est surtout que ça a vraiment marqué l'histoire de la Winter, dans le sens où après, en fait, c'était pas comme ça avant. C'est-à-dire que après, tout le monde voulait arriver avec son titre, le faire écouter à tout le monde et que ça marche. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce qui a fait que, à un moment donné, la Winter, il y a eu encore plus d'intérêt pour ça, quoi. On s'est dit, c'est vraiment un lieu qui peut faire naître un hit et ça a créé un petit mythe autour de ça, ouais.
On a pu me booker comme DJ pour les mixer parce que j'avais la copie de Stardust et que j'allais pouvoir le jouer.
Antoine Kenobi.
Les mecs disaient, ouais, c'est vrai que tu l'as le Stardust? C'est complètement lunaire. Il m'est arrivé à Rennes de le mixer et le mec mettait des billets de 100 balles. Ouais, je te le vends pas. Mais tu peux en avoir un autre. Je dis, mais non, je le vends pas. Et c'était monté à 500 ou 600 balles, ce qui était beaucoup d'argent à l'époque pour un vinyle. Mais en tout cas, il y avait une frénésie et on était là, genre, t'es sûr, tu vas le jouer? Et tu le jouais deux fois d'affilée.
Bien sûr qu'on le joue une fois, deux fois, trois fois dans la soirée. À ce moment-là, il n'y a pas beaucoup de production sur le marché, tu vois, de disques qui sont vraiment intéressants. Ce disque-là, c'est la bombe atomique de l'année 1998.
Moi, la première fois que je l'ai entendu en club, c'était au Queen. C'était la flippance, c'est-à-dire j'étais persuadé, non mais je te jure, j'étais persuadé que les gens allaient s'arrêter de danser en fait. Mais vraiment quoi, ça n'a pas été forcément un tube tout de suite, les gens n'ont pas dansé, ils se sont pas roulés par terre immédiatement. Mais tout d'un coup le morceau est passé, et Sven il l'a joué plusieurs fois dans la soirée, je m'en rappelle. Et au moment où il le joue, putain j'étais... C'est comme les comédiens qui veulent pas se voir sur grand écran quoi. Limite je me suis bouché les oreilles quoi, tu vois. Et en fait, j'ai vu que les gens, bah, ça passait, tu vois, donc je me dis, bon, ok, c'est cool, tu vois. Mais je me rappelle très très bien. J'étais persuadé que les gens allaient s'arrêter de danser, par exemple. Je sais pas pourquoi.
L'histoire secrète de la French Touch. Épisode 7, la folie Stardust.
Ça pour moi ça a été une vraie claque.
Étienne de Crécy.
Le Stardust, quand j'ai entendu ça, c'était vraiment la synthèse de tout ce que j'avais envie de faire, d'entendre. Tout ça, le son énorme, avec une voix, il y avait un côté pop, assez funky. Ça m'arrive rarement, mais c'est vraiment un morceau dont j'étais jaloux.
Stardust, dans ma catégorie à moi, c'est la classe, ça défonce, du début à la fin, quoi.
Philippe Vitard.
Comme un film, comme Shining.
2005.
Donc j'adorerais avoir un morceau un jour dans ma vie qui je trouve mortel et qui a du succès. Je peux me dire, j'espère que j'en aurai un jour. Ça me ferait kiffer d'en faire un avant que je meure. Parce que ça fait sommet de la montagne. C'est comme le jour après Imagine, John Lennon, il a dû dire, oh là là, bon, merde. Comme Zidane, ou quand il a mis les deux têtes, ou des trucs, tu vois, des mecs, quand t'arrives à un moment donné où c'est tellement, tellement, tellement fort, et tellement, ça correspond à, ça devient un truc universel.
Après, Music Sounds Better With You, il est rentré dans la catégorie des classiques, en fait.
Alan Braxe.
Finalement, il sera toujours là. C'est une espèce de valeur sûre qui est dans le paysage musical. Donc c'est une chance énorme, hein, quand tu es musicien, d'avoir contribué à un morceau comme ça.
Je me rappelle au bureau rue du Rantin de Daft Trax, là. Il recevait des fax de commandes, parce qu'en fait, au départ, c'était en vinyle. C'était uniquement en vinyle. Et j'ai des souvenirs, mais en fait, je voyais Gilda qui faisait une tête, parce que c'est lui qui recevait les fax, et t'avais des mecs qui commandaient, je sais pas, genre 15 000 copies, quoi. Et moi, je réalisais pas. Et quand je lui disais, c'est beaucoup 15 000, le mec, il me regardait, il me disait, mais mec, tu te rends pas compte, quoi. Des 15 000, c'est énorme. Quand tu dis 10 000 copies, quand c'est toi qui les sors de la bagnole, ça fait beaucoup de carton.
Live. From Radio 1 Studios, the official UK Top 40.
The official UK Top 40 is the only chart based on record sales. and nothing else.
22, down 8 places for The Cause and Stand By Me, and down 1 at 21, Stardust and Music Sounds Better With You.
Thomas Kallenbrax et Benjamin Diamond, c'est un secret pour personne, ils se posent la question d'en faire plus.
Pedro Winter, ancien manager des Daft Punk.
Après le succès de Music Sounds Better With You, la question de savoir si un album de Stardust va exister se pose. Je vais trahir personne aujourd'hui en disant qu'effectivement, il y a quelques morceaux qui ont été composés, produits, mais le projet n'aboutira pas. Thomas se retrouve en studio avec Guyman, et ça remet pas du tout en cause le groupe.
Ouais, des questions d'indices, il y a beaucoup d'argent en jeu. Ils proposent, à l'époque, $1 million chacun. Bon, c'est vraiment genre, c'est le rêve américain, quoi, tu vois.
Benjamin Diamond.
Mais moi, je réalise même pas, en fait. La seule chose que je voulais, moi, c'était faire un truc, mais j'ai pas réalisé en fait qu'on était passé à un autre niveau et que tout d'un coup, si tu veux, c'était plus faire un maxi avec un pote sur son label indé. Et là, il y avait vraiment des très très gros enjeux et je pense que voilà, ça a été compliqué à gérer et on n'a pas trop géré ça en fait. Et je pense que bah, l'album s'est pas fait. On avait commencé à le travailler et à faire des titres dans la maison de Thomas en fait. Et puis je crois que voilà, on l'a pas fait parce que je pense que il y avait, comme tu dis, il y avait les Daft et il me semble qu'ils ont préconisé plutôt de tu vois, plutôt que de partir sur quelque chose qui était un peu encore aléatoire, bah pérenniser le projet Daft Punk. Ils ont bien fait d'ailleurs.
Ils ont pas vraiment compris qu'ils avaient un Thomas, pas simplement un membre du groupe, ils avaient un mec avec une vraie vision de maison de disques.
Emmanuel De Burtel, ex-PDG de Virgin France.
Ils n'ont pas compris ça. Un avocat sans vision musicale, bonne avocate sans vision musicale, n'a rien compris au problème et a cassé la carrière de deux autres. Mais elle n'a aucune vision musicale, donc elle n'a pas compris le problème. Mais ça, c'est le problème des avocats qui veulent être managers. Et donc, des artistes qui sont par principe parano, Thomas qui n'a pas le temps à perdre, si les gens ne voient pas, c'est pas la peine de perdre son temps. La preuve, c'est qu'ils n'ont rien fait. Alors qu'ils sont brillants. Mais si vous n'avez pas un mec avec une intelligence suprême qui voit la vision, qui leur apprend, puisqu'il avait énormément d'expérience.
Thomas, il a refilé. C'est un super bon producteur. Et,
Philippe Starr.
Il part souvent d'une base roughneck et vraiment underground, et c'est ça qui est fantastique. Et c'est vrai que Thomas seul a fait Gin Tonic. Puis il y en avait d'autres dans son placard. Et je pense, voilà, Thomas, il a un feeling de succès. Ouais, ce mec-là, il a le feeling de succès.
Thomas, il est toujours dans la win, tu vois, donc c'est un mec qui fait pas quelque chose s'il n'est pas certain que ça marche. Donc, mais c'est vrai qu'un succès, tu peux jamais l'envisager. Je veux dire, tu peux être content de ce que tu as fait et te dire on a fait un bon morceau. Après, c'est le public. Et surtout, ce qui est très curieux, c'est que 20 ans après, 25 ans après, en fait, le morceau est ressorti. En fait, et de nouveau, si tu veux, on se retrouve avec des streams hallucinants, alors que pendant 20 ans, et bon, c'était un problème juridique, contractuel, et donc 20 ans après, ça recommence, en fait. Donc tu te dis, waouh, en fait, c'est ouf. Voilà.
Pour moi, Thomas et ses deux compères dans Stardust ouvraient une porte.
Romain Tranchard, du groupe Mojo.
Parce que je me disais, ok, là on peut faire de la musique électronique, mais avec des couplets, ça peut être chanté, ça peut, je dirais, sans aucun problème, que Lady est un enfant de Stardust. Ouais, ouais, c'est sûr.
À suivre. Épisode 8. Extase et gueule de bois.
À l'époque, tout le monde disait, ouais, c'est de la merde et tout. Moi, je disais, mais c'est de la merde, c'est pas de la merde, c'est super, quoi. C'est vraiment, c'est notre musique qui est en train de devenir la musique de l'époque. Donc, il y a un côté... On est en train de gagner. Can
L'histoire secrète de la French Touch est un podcast original de France Inter.